La mort d'un homme d'une quarantaine d'années hier à Koumak. Il a été attaqué par un requin alors qu'il nageait près de l'île Rokandak. À Koné, les locaux de la SIC et ceux de la bouquinerie du Nord ravagés par un incendie ce matin. Incendie d'origine criminelle. 9000 livres ont été détruits. Dernier jour de rotation pour les navettes maritimes entre Nouméa et le Mont d'Or. Cela fait suite à une baisse de fréquentation observée depuis la réouverture progressive de la RP1. Les commerces calédoniens en souffrance, même si décembre a été le meilleur mois de l'année 2024. Leur chiffre d'affaires a baissé de 30 à 40% par rapport à décembre 2023. Aux États-Unis, on en sait plus sur l'attaque à la voiture Bélier qui a fait 15 morts à la Nouvelle-Orléans. Le terroriste avait fait allégeance à l'État islamique. Gérald Darmanin veut frapper les narcotrafiquants au portefeuille. Le ministre de la Justice était en déplacement à Marseille la nuit dernière. Et puis le sport et le tennis avec la suite du BNC Tennis Open sur les cours du Wentoro. À suivre aujourd'hui les demi-finales du tableau de simple. Et soyez les bienvenus dans ce journal. À Koumak, une attaque de requin a donc fait un mort hier. Les secours ont été alertés à 16h45. La victime de 40 ans, un militaire du RSMA, a été mordu au niveau de l'un de ses bras alors qu'il nageait près de l'île Rokandak. Il a été secouru par sa famille et conduit jusqu'à la marina de Koumak où les attendaient les pompiers avec un avion médicalisé. Malgré l'intervention des secours, le décès a été constaté aux alentours de 18h40. Un drame qui intervient en province Nord, au moment où la plupart des établissements de santé sont fermés jusqu'à la fin du mois de janvier, où fonctionnent partiellement les Léana Colombo.
Oui, le manque d'effectifs infirmiers et médical est un problème qui touche tout le territoire, mais il est d'autant plus critique dans le Nord. La semaine dernière, les 14 CMS de la province avaient temporairement fermé leurs portes, faute de personnel suffisant. Jusqu'à la fin du mois, les services des urgences des CHN de Koumak et Pointe-d'Imier seront également fermés, ce qui représente tout de même plus de 50 lits. À Et même si la plupart des services restent ouverts, une réorganisation a été nécessaire, entraînant la fermeture de 20 lits sur les 60 que comprend le CHN. Ajouté à cela, le nombre conséquent de désistements, explique Marc Ouetté, le directeur adjoint du CHN de Koné.
On a enregistré en l'espace de 3 mois 31 désistements uniquement d'infirmiers. 50% de ces 31 désistements évoquent la notion de sécurité. C'est une situation qui est de plus en plus critique. Notre objectif aujourd'hui, c'est de maintenir une offre de soins qui soit minimale et surtout pour la prise en charge aiguë avec le plateau technique de Koné. C'est la raison pour laquelle on essaie de reconcentrer nos ressources sur Koné pour tenter en tout cas de répondre et de proposer une offre de soins qui soit adaptée au plus grand nombre. Malheureusement, forcément, ça se fait là sur Pointe-d'Imier et Koumak, on a plus suffisamment d'infirmiers pour maintenir les services d'urgence et on a malgré tout la possibilité de maintenir les consultations médicales qui sont tout aussi importantes.
Ces consultations médicales sont effectuées du lundi au vendredi sur rendez-vous. En cas d'urgence, il faudra appeler le centre 15 ou se rendre directement aux urgences de Koné. Marc Ouetté évoque une situation sanitaire inédite dans le Nord.
On n'a jamais été dans cette situation-là, en tout cas sur les 10 dernières années. On avait plutôt tendance à avoir un service assez bien doté. Là, on traverse une situation inédite et puis à laquelle on cherche à trouver des solutions coûte que coûte. Là, actuellement, en cas d'urgence, les personnes, en tout cas, appellent le 15 et c'est par la régulation du 15 que les choses sont organisées. Mais c'est sûr que là, on a une dégradation, en tout cas, de l'offre de soins par rapport à ce que nous avons, par exemple, que nous avions eu en début d'année.
Avec l'arrivée hier d'un médecin anesthésiste à l'hôpital de Koné, la maternité et le bloc opératoire qui devaient être fermés jusqu'à la semaine prochaine maintiennent finalement leurs activités.
Au chapitre des faits divers, un incendie criminel à Koné. Il a été allumé vers 4h30 dans le bâtiment qui abritait les locaux de la SIC et de la bouquinerie du Nord qui a été entièrement détruite. Les 9000 livres qui étaient stockés sont partis en fumée. Un cabinet psychologique situé à l'étage a lui aussi été brûlé. Les pompiers sont encore sur place pour sécuriser les lieux. Une partie du bâtiment est protégée, mais le sol de l'étage et de l'autre partie menace de s'effondrer. Le plan Orsec de niveau 2 toujours en cours dans le Grand Sud. Il a été déclenché hier à 16h30 car un incendie menace le parc de la Rivière Bleue. Il a débuté aux alentours de 15h mercredi. Plus de 200 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Aujourd'hui, le feu est toujours en évolution libre. La priorité des soldats du feu est de limiter l'extension des surfaces brûlées et de protéger le parc provincial. Les sapeurs-pompiers de la sécurité civile et de la commune du Mont d'Or sont sur zone. Ils sont appuyés par un hélicoptère bombardier d'eau. Les navettes entre le Mont-d'Or et Nouméa ne navigueront plus. Dès demain, la province sud a annoncé hier devoir stopper le service d'urgence. Le système de rotation avait été mis en place le 14 mai dernier et a permis de transporter jusqu'à 3800 passagers par jour. Mais depuis la rouverture progressive de la RP1, l'utilisation des navettes a chuté. C'est ce qui a poussé la province sud à stopper le service dès demain, comme l'explique Nicolas Panier, secrétaire général de la province.
Là, entre Noël et Nouvel An, on est tombé à moins de 30 personnes entre Nouméa et le Val-d'Or et moins de 20 personnes entre Boulary et le Val-d'Or. Donc voilà, aujourd'hui, on est bien sur un dispositif qui était lié à l'urgence, qui était exceptionnel. Ce n'est pas la compétence de la province sud de faire ce transport. On a accompagné jusqu'au bout le processus, mais là, effectivement, on suspend les navettes et nous, on a bien demandé au commissariat d'être très attentif, d'être très vigilant sur la sécurité routière, sur la RP1. C'est une priorité absolue pour nous et on l'aura bien rappelé. Et en plus, on a demandé à ce que le CNTU travaille à ce qui existait avant le 13 mai, à la reprise à la rentrée, si possible, d'une rotation qui puisse se faire, mais dans le cadre du réseau de transport urbain, dans le cadre du CNTU, dont c'est la compétence.
Nicolas Panier qui ajoute que plus d'un milliard de dépenses ont été engagées pour la mise en place du dispositif qui bénéficiait un temps du soutien de l'État. Ce soutien financier a pris fin le 30 novembre. Il s'agit donc d'un non-sens économique de maintenir ces rotations pour si peu de fréquentation. Les derniers bateaux navigueront aujourd'hui. Des fêtes moins fastes sur le territoire. Le syndicat des commerçants observe une forte baisse de la consommation au mois de décembre par rapport à l'année dernière. Pour autant, il a permis à plusieurs magasins de refaire de la trésorerie pour aborder ce début d'année 2025. C'est ce que nous a dit Ronan Delay, le président du syndicat des commerçants, qui était votre invité ce matin à 7h30, Nicolas Legrand.
Oui, décembre, c'est le mois le plus attendu par les commerçants. Et cette année, il était tout simplement crucial après les violences de mai. Seulement, les habitudes des consommateurs ont évolué et beaucoup d'achats de Noël ont été anticipés lors du Black Friday en novembre notamment. C'est ce qui peut expliquer en partie la faible activité pour un mois de décembre. Écoutez Ronan Delay.
Comme tous les mois de décembre, ça a été le meilleur mois de l'année. Néanmoins, on constate des baisses significatives. Les premiers retours que l'on a, cela oscillerait entre 30 et 40% de baisse du chiffre d'affaires par rapport à N-1, comme on dit, l'an dernier. Le gros souci, c'est que déjà l'an dernier, nous étions de l'ordre de moins 30 déjà. Donc en fait, finalement, si l'on regarde la Calédonie depuis 2 ans, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires qui est perdu par les commerçants et c'est très inquiétant pour la suite. Depuis les événements du mois de mai, on a quand même observé lors de la reprise des mouvements de clientèle un petit peu différents. Il y a eu des destructions de centres commerciaux, de magasins. Naturellement, la clientèle s'est rendue dans des coins qui sont plus sécurisés. On a l'impression que le centre-ville de Nouméa a repris un petit peu de couleur, même s'il est toujours en perte de vitesse. Mais tout ceci n'est pas... Ce ne sont pas des signaux encourageants, c'est-à-dire qu'on voit uniquement une clientèle qui se dirige là où elle peut aller. Ça a rabattu les cartes au niveau répartition des consommateurs, mais sans plus.
Le syndicat des commerçants qui attend des décisions fortes de la part des institutions locales et notamment du 18e gouvernement, car 2025 s'annonce très compliqué, peut-être même davantage encore que 2024.
2025, c'est difficile de se projeter parce qu'en fait on a une visibilité, on a l'impression à une semaine en Nouvelle-Calédonie. Et j'entendais le ex-chef de gouvernement il y a quelques semaines dire que les Calédoniens ont besoin de 3 ans de visibilité. Nous n'avons pas besoin de 3 ans de visibilité, nous en avons besoin de 30 minimum. La solution viendrait de nos élus politiques, d'un accord, de maturité politique et de responsabilité de leur part. Malheureusement, il faut bien l'avouer, nous ne la voyons pas venir. Nous attendons, nous, société civile, nous avons d'ailleurs fait des propositions fortes avec le MEDEF, le Monde économique, NCECO, auprès des politiques, 140 pages de dossier avec des propositions de relance économique, fiscale, sur la santé. Et c'est un rapport, croyez-le ou non, nous n'avons aucun retour. Donc en tant que chef d'entreprise et membre de la société civile, si vous voulez, il y a un petit peu de découragement tout de même face à cette non-réponse plutôt.
Et autre interlocuteur pour le monde économique, il s'agit de l'État. Immédiatement après les violences de mai, Paris a mis en place une mission interministérielle pour la reconstruction. Mais l'instabilité politique au niveau national a pénalisé le travail des experts en lien avec le monde économique. On retrouve Ronan Delay.
Aujourd'hui, nous n'avons plus d'interlocuteurs. Nous en avons eu pendant longtemps. Évidemment, la dissolution à l'Assemblée nationale a été un coup dur pour nous. C'est une évidence. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'interlocuteurs. Les dernières discussions que nous avons eues, d'ailleurs, nous ne savons pas trop vers où cela pouvait nous venir. Maintenant, il y a un gouvernement de plein exercice en France avec Manuel Valls et donc le Premier ministre qui, nous l'espérons, vont faire des annonces fortes en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est vrai qu'ils ont d'autres dossiers à gérer que les nôtres. Je pense à Mayotte également. Il est vital que l'État s'implique à nouveau davantage. Nous n'avons jamais été autant dépendants de la France qu'aujourd'hui, et où la France d'ailleurs a des difficultés à pouvoir nous aider plus que ce qu'elle nous aide aujourd'hui, ce qui n'est déjà pas assez. Manuel Valls connaît la Nouvelle-Calédonie, espérons beaucoup en tout cas de sa nomination. Il est urgent qu'il agisse.
Ronan Delay, le président du syndicat des commerçants, qui estime que l'accompagnement pour la relance se fait à la fois par des aides économiques, mais aussi et surtout par une garantie de la sécurité sur le territoire. Seul moyen de retrouver la confiance des investisseurs, mais aussi des consommateurs. Un entretien retrouvé en intégralité sur notre site internet rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier à l'unanimité, les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le couvre-feu a contribué au fait que le réveillon du Nouvel An se soit passé sans débordement. Voici notre question du jour. Redoutez-vous une augmentation du nombre de cyberattaques en Calédonie dans les mois qui viennent? Si vous le redoutez, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. Depuis quelques mois déjà, c'est le retour des beaux jours sur le territoire. En cette période de vacances scolaires, les piscines municipales sont remplies, que ce soit à Dimbéa ou à Nouméa. Les bassins sont une aubaine pour les familles, Charlotte Coulson.
Il fait beau, il fait chaud, c'est l'excuse parfaite pour passer la journée à la piscine. Les maîtres nageurs observent toujours un pic de fréquentation à cette période de l'année. C'est le cas notamment à Dimbéa. Le centre aquatique Guy Verlaguet avait été attaqué pendant les émeutes et a pu finalement rouvrir en décembre. En ce début d'année 2025, les bassins attirent les familles, mais aussi les sportifs qui profitent des cours dispensés dans l'eau. C'est ce que constate Mathieu, il est chef de bassin à la piscine de Coutiou.
La fréquentation n'a pas été forcément grande en décembre, mais là, même on le voit depuis aujourd'hui, que les gens viennent un petit peu plus à la piscine. Sur nos activités aquagym et aquabike, ça marche énormément. Nous avons beaucoup de monde, limite victime de notre succès sur l'aquabike. Les gens se battent pour avoir un peu des places. Vu les structures qui ont fermé, je pense que beaucoup de gens du Grand Nord Nouméa se rapprochent de la piscine. Du coup, ça marche très bien sur cette partie-là. Sur l'aquagym également, on tourne entre 10 à 11 cours par semaine. Et tous nos cours, on a du monde, que ce soit midi et soir.
Et à Nouméa aussi, on accueille les sportifs comme les familles, mais pas au même endroit. La commune compte en effet 3 piscines, à Rivière-Salée, au Wentoro et à Magenta. Leurs aménagements attirent une clientèle diversifiée. C'est ce que constate Vivien Chailly, le chef de section de piscine de la ville de Nouméa.
Les fréquentations sont assez équilibrées. On a la piscine de Rivière-Salée, qui est plutôt une piscine qui est ouverte pour les gens qui sont membres annuels, qui a peut-être un petit peu moins de fréquentation, mais au niveau du centre aquatique de Magenta, qui est une piscine qui est plus familiale, avec l'espace ludique, les ouvertures de toboggans, les nocturnes et tout ça, là, c'est vrai qu'on a vu une fréquentation s'accroître. Par contre, pour la piscine du Wentoro, qui a un bassin sportif, mais qui a également aussi la petite pataugeoire pour la famille, donc c'est vrai qu'on a aussi vu, avec l'arrivée des beaux jours, et beaucoup de personnes viennent se remettre en forme et faire pas mal de longueur à la piscine du Wentoro.
Et que ce soit à Dimbéa ou à Nouméa, les bassins sont souvent remplis, particulièrement à la mi-journée lorsqu'il fait très chaud. Les Calédoniens viennent en famille pour se rafraîchir et les enfants apprécient particulièrement la baignade.
Moi j'aime bien aller à la piscine de Magenta parce qu'il y a plein de toboggans et surtout les jacuzzis aussi, c'est cool. Moi j'aime tout en fait, les glissades là c'est cool pour faire la course et tout.
Disons que quand j'ai vu les 32 degrés affichés sur la voiture, j'ai eu l'idée de m'arrêter à la piscine avec ma petite là, en plus elle adore nager, alors on s'éclate.
La petite, elle a un an, c'est la première fois qu'elle vient à la piscine. Elle découvre l'eau, elle est émerveillée, elle est super contente.
Les horaires et les tarifs sont à retrouver sur les sites internet des villes de Nouméa et de Dimbéa. Et dans le reste de l'agglomération, les Mondoréens peuvent aussi aller nager à la piscine de Boulary. L'entrée y est gratuite pour les moins de 12 ans jusqu'au 31 janvier.
Il est 11h45, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, toute l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, 11h-13h, Infomag, Lionel Sabot.
Et l'actualité à l'étranger, aux États-Unis, on en sait désormais plus sur l'attaque à la voiture Bélier qui a fait 15 morts le soir du Nouvel An dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Le profil de l'assaillant se dessine peu à peu. On a appris ces dernières heures que cet homme de 42 ans avait fait allégeance à l'État islamique il y a quelques mois. Une allégeance que Samsoud-Din Jabbar a évoquée dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux la nuit de l'attaque, juste avant de passer à l'action dans le centre historique de la Nouvelle-Orléans. Christopher Raya est le directeur adjoint du FBI.
Il y avait 5 vidéos sur le compte Facebook de Jabbar postées entre 1h29 et 3h du matin. Dans la première vidéo, il explique qu'il avait initialement prévu de nuire à sa famille et à ses amis. Dans une autre, il déclare avoir rejoint Daesh avant cet été. Il a également fourni un testament.
Et j'ajoute que les enquêteurs ont également retracé le parcours du terroriste. Samsoud-Din Jabbar a commencé son périple meurtrier dans l'État du Texas. C'est là qu'il a loué le pick-up qu'il a utilisé lors de l'attaque qui avait été minutieusement préparé. Les enquêteurs ont également découvert que le terroriste avait déposé 2 engins explosifs dans Bourbon Street, l'une des rues les plus fréquentées de la ville. Des bombes artisanales dissimulées dans des glacières et retrouvées intactes par les forces de l'ordre. Le FBI qui indique par ailleurs que l'assaillant aurait agi seul sans l'aide de complices. Les enquêteurs qui indiquent par ailleurs qu'à ce stade de l'enquête, rien ne permet de lier l'attaque de la Nouvelle-Orléans à une explosion qui s'est produite quelques heures plus tard à Las Vegas. Explosion devant un hôtel appartenant à Donald Trump. L'actualité en métropole est Gérald Darmanin qui veut frapper les narcotrafiquants au portefeuille. Le ministre de la Justice était en déplacement à Marseille la nuit dernière pour nous. Il a visité les locaux de la protection judiciaire de l'enfance et le centre pénitentiaire des Baumettes. Pour son 3e déplacement en l'espace d'une semaine, Gérald Darmanin a insisté sur les moyens financiers des gros trafiquants de drogue, des moyens qui leur permettent, dit-il, de corrompre des agents de l'État ou de les menacer. Le garde des Sceaux qui dit vouloir mettre les moyens pour lutter contre le blanchiment d'argent. Gérald Darmanin qui, lors de ce déplacement, a défendu son initiative de mettre les 100 plus gros trafiquants de drogue à l'isolement. Maïalène Trémollet pour Europe 1.
Gérald Darmanin veut se montrer sur tous les fronts. Aujourd'hui, en visite à Marseille, le nouveau garde des Sceaux a multiplié les annonces coup de poing dans la lutte contre le trafic de drogue et explique vouloir taper au portefeuille les trafiquants en ciblant le blanchiment d'argent.
Je donnerai les instructions dans la circulaire de politique pénale pour que les atteintes, les menaces, les corruptions envers les agents publics soient particulièrement poursuivies avec la plus grande fermeté. Nous devons aussi montrer que les exemples de corruption et de menaces sont condamnés par notre justice.
S'il promet sans cesse plus de moyens et plus de fermeté pour la justice, le nouveau garde des Sceaux sait que les jours de ce gouvernement sont comptés et que, sauf surprise, le budget de la justice ne devrait pas augmenter significativement par rapport à celui fixé sous Michel Barnier. En clair, à l'image de son bilan en demi-teinte à l'intérieur, marqué par une loi immigration qui commence à porter ses fruits, mais aussi des chantiers inachevés, comme l'expulsion de 100% des étrangers considérés comme dangereux, Gérald Darmanin pourrait être contraint de quitter la place Vendôme avant d'avoir obtenu des résultats tangibles.
Maïalène Trébollet du service police-justice d'Europe 1. Dans l'actualité politique également, c'est ce soir pour nous que le gouvernement Bayrou fera sa rentrée avec un premier conseil des ministres. Conseil des ministres qui devait entériner le projet de loi d'urgence sur Mayotte, mais Matignon a annoncé il y a quelques heures que l'exécutif souhaitait s'accorder un délai pour consulter les élus. Un délai qui ne devrait pas avoir d'impact sur l'examen du texte à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui reprendra d'ailleurs ses travaux dans 10 jours. Et parmi les dossiers chauds de la rentrée pour le gouvernement de François Bayrou, il y a celui de la fonderie de Bretagne qui emploie 350 personnes à Caudan dans le Morbihan, une entreprise menacée de fermeture. Renault, l'ancien propriétaire, est accusé d'avoir fait capoter la possible reprise de l'entreprise par un groupe allemand. L'État étant actionnaire de Renault, l'affaire prend forcément une tournure politique alors que plusieurs responsables politiques locaux et syndicaux demandent au président de la République d'intervenir dans ce dossier. François Omeril est le président de la CFE-CGC.
Si Renault était une entreprise qui n'avait reçu aucune subvention de l'État depuis plusieurs années, si Renault n'était pas une entreprise dans laquelle aujourd'hui l'État est représenté portée au niveau des actionnaires. Bah, on pourrait dire, effectivement, il n'y a rien à demander à Renault, mais c'est évidemment pas le cas.
François Amery, le président de la CFE-CGC, joint au téléphone par nos confrères d'Europe 1. L'actualité dans la région Pacifique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un camion transportant une vingtaine de personnes est tombé dans une rivière, tuant 12 personnes au moins. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le drame s'est produit de nuit dans la province d'Anga. Un camion venait d'en quitter le chef-lieu, Wabag, en direction des Hauts Plateaux, avec, dans sa benne, une vingtaine de personnes. Pour des raisons que la police va devoir établir, le véhicule est soudain parti en tonneau et est tombé dans la rivière Lai, que la route longe alors sur plusieurs kilomètres. 12 des occupants du camion, à savoir 6 femmes et 6 hommes, ont été tués et 7 autres gravement blessés. D'après un parlementaire de la région, la route en question ne serait en fait qu'une méchante piste pleine de nids de poules. Il a ajouté que l'un d'eux est probablement à l'origine de l'accident. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et puis toujours dans la région, en Australie méridionale, les recherches ont repris ce matin afin de retrouver le corps d'un homme de 28 ans qui a été tué par un requin alors qu'il surfait tard hier soir au large de Granite Beach, une plage située à environ 500 km au nord-ouest d'Adélaïde. Par précaution, la plage a été fermée au public aujourd'hui. Il est 11h52, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité sportive, on parlera tennis et voile.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termite. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo.
Un numéro 28 94 20.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Tout le sport, en trois lettres, RRB.
Et avant de retrouver Lionel Sabot, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Allez, la page de sport de ce journal, on va commencer avec du tennis. Il ne reste plus qu'un seul Français en lice au BNC Tennis Open. Il s'agit, Léo Fichou, de Constant Lestienne.
Eh oui, la tête de série numéro 8 du tournoi a réalisé une belle performance hier en battant le monégasque Valentin Vacherot, tête de série numéro 4 en 3-7. Le score 6-2, 4-6, 7-5 en plus de 2h30 de jeu. Malgré les fortes rafales de vent sur le court Ngodrella, les deux hommes ont livré un très gros duel. On écoute le Français après la rencontre.
Très content de gagner à la fin. C'était dur de jouer contre Val. On a passé toute la semaine ensemble. On a mangé ensemble tous les jours, matin, midi, soir. On s'est fait un gros fight. Ouais, y avait du vent, un peu moins au troisième, mais c'était dur. Ouais. J'ai réussi à pas exploser. C'était dur. La frustration, le vent, le scénario. Je crois que je me fais breaker 4 fois au troisième et j'arrive quand même à gagner, donc c'est un peu un miracle. Dans ma tête, je me dis pourquoi t'es là, est-ce que c'est pour pleurer ou te battre. Donc y a des moments où on arrive à reprendre ses esprits, des moments où on n'arrive pas. Donc voilà, c'est vraiment un travail dur mentalement. On a vu Fuskovic qui a brisé un cadre, Val, pareil, qui a logé une balle, moi qui ai acheté ma raquette. Moi, c'était vraiment dur aujourd'hui.
Et en demi-finale ce soir, aux alentours de 18h, Constant Lestienne affrontera la surprise de ce tournoi, l'Australien Moerani Bouzige, dont la maman est haïtienne, 517e mondial. Il a brillé hier soir face à la tête de série numéro 2 du tournoi, le Hongrois, Marton Fuksovic. Victoire en 2-7, 6-3, 6-3. On écoute Moerani Bouzige.
Ouais,
les conditions étaient vraiment compliquées, il y avait beaucoup de vent, il fallait bien s'hydrater et je suis content d'avoir pu gagner dans ces conditions. Les dernières fois où j'ai joué, il y avait déjà du vent, donc je pense que ça m'a aidé cette semaine. J'ai vraiment fait de mon mieux et je me suis battu au fond du court, j'ai lutté face au vent, j'ai été agressif plus que lui et j'ai réussi à garder le contrôle du jeu.
Enfin, dans l'autre partie du tableau, c'est malheureusement terminé pour Enzo Cuoco, finaliste l'an dernier. Il est éliminé cette année en quart de finale, défaite contre l'Autrichien Yurij Rodionov en 3-7, 6-4, 4-6, 2-6 en demi-finale. À partir de 20h, la tête de série numéro 6 sera donc opposée au Japonais Shintaro Mochizuki, tombeur de son compatriote Aisei Ishikawa en 2-7, le score 6-3, 6-3.
Un mot du tableau de double également, Léo, il n'y aura pas de Français en finale.
Et non, hier soir, Théo Arribagé, accompagné du Portugais Francisco Cabral, se sont inclinés au super tie-break, le score 6-4. 5-7, 6-10 contre Blake Baildon et le double tenant du titre en double Colin Sinclair. En finale, dès 16h30, les deux hommes affronteront la paire japonaise composée de Ryuki Matsuda et de Ryotaro Taguchi. Les Nippons qui n'ont pas eu à jouer leur demi-finale suite au forfait d'Enzo Cuoco et de Jesper De Jong, le Néerlandais étant blessé au dos. Et je rappelle, le rendez-vous Radio Rythme Bleu lors de ce tournoi BNC Tennis Open, c'est à 17h, la dernière émission spéciale de la semaine en direct des installations de la Ligue de Tennis de Nouvelle-Calédonie. J'aurai le plaisir de vous y retrouver avec des invités. Olivier Ledin, le directeur du tournoi, mais aussi les joueurs et les bénévoles.
On termine cette page sport par de la voile, 53e jour de course sur le Vendée Globe. Et le duel entre Charlie Dalin et Johan Richomme qui se poursuit.
Charlie Dalin, grand favori de cette édition sur Massif Santé Prévoyance, garde la tête avec 34 000 nautiques d'avance sur Johan Richomme à bord de Paprec Arkea. Les deux hommes ne sont plus très loin de Salvador de Bahia au Brésil. Ils continuent leur remontée vers la ligne d'arrivée qui, on le rappelle, est au Sable d'Olonne. En troisième position, on retrouve toujours Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil qui, lui, navigue très près des côtes et continue de grappiller du terrain sur les deux hommes de tête. En seulement 24 heures, il a récupéré 100 000 nautiques et désormais à 300 000 nautiques de la tête. L'info de ces dernières heures, c'est la détection d'iceberg par les skippers qui naviguent entre le point Nemo et la zone d'exclusion antarctique. C'est les skippers qui sont entre la 20e et la 30e place. C'est inédit depuis 2008 et ça ne rassure pas Eric Bellion sur Stand As One Altavia.
Vous voyez derrière moi là, à droite, c'est un iceberg. Oh là là, ça fait peur. Hein. Faut dire, on fait pas les malins, le bateau et moi. Je vous rappelle, la coque de mon bateau, elle fait 3,6 mm d'épaisseur. Je peux pas me permettre de taper ça. J'espère qu'il n'y a pas de petits grôleurs, c'est des petits glaçons qui se détachent de l'iceberg. Ça fait super peur. Je m'attendais pas à voir un iceberg sur le Vendée Globe, moi. C'est bon les icebergs quand tu vas, mais avec des bateaux d'expédition, avec des coques en acier, pas des coques en carbone.
Et donc une dizaine de skippers est actuellement dans la zone où les icebergs ont été vus. Je le rappelle, c'est au sud du point Nemo.
Il est 11h59 pratiquement, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour faire un nouveau point sur l'actualité. Bel après-midi sur Radio Rythme Bleu.